Shalom, shalom, sois béni mon frère, sois béni ma sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens pour faire un message sur un texte aujourd'hui. Le texte de ce jour, c'est Apocalypse chapitre 2, verset 3 au verset 5. Je lis la parole de Dieu. La parole dit: Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, en fait, le texte qui a été lu dans Apocalypse 2, c'est Jésus-Christ, c'est l'ange de l'Église qui parle en fait à travers Jean à l'Église qui est à Éphèse. Alléluia. Donc, il donne des conseils à l'Église qui est à Éphèse. Et il lui parle de la persévérance. Il lui dit, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu n'étais pas lassé. Un peu auparavant, si on prend le verset 2, la parole dit, je reconnais ta conduite, la peine que tu prends à ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendaient apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu n'étais pas lassé. Alléluia. Donc ça fait référence en fait au livre de Éphésiens où l'apôtre Paul parlait et donnait des conseils à l'église d'Éphèse pour lui dire qu'en fait, parce qu'il y avait des courants, des fausses doctrines qui étaient enseignées par des gens qui n'étaient pas des apôtres, mais en tout cas des disciples. Et qui commençait à vouloir envoyer des fausses doctrines dans l'Église, et l'apôtre Paul leur avait conseillé de les mettre au défi, de venir tester leurs doctrines avec la parole de Dieu. Donc, en ce moment-là, ils verraient que ce sont des menteurs et que des fausses doctrines sont véhiculées. Donc, c'est de ça qu'il parle ici. Donc, il disait donc ils ont de la persévérance. Et qu'ils ont mis, ils ne se sont pas lassés. Ils ont souffert à cause de la parole et ils ne se sont pas lassés. Alléluia. Mais donc, ce sont comment on dit ça? Il est en train de faire des compliments à l'Église sur leur ténacité. Les compliments parce qu'ils sont restés intègres, ils sont restés fidèles à la parole de Dieu. Et ils ne sont pas laissés bercer par des fausses doctrines. Et ils ont souffert, ils ont été persécutés. Il y a eu des remous dans l'Église, sûrement. Il y a eu des courants qui se sont passés dans l'Église. Il y a dû avoir beaucoup de difficultés dans l'Église, en tout cas pour ceux qui géraient l'Église. Et malgré ça, ils ont tenu bon. Donc le Seigneur a cru bon de leur faire des compliments. Mais par contre, il a révélé au verset 4 qu'il y avait un reproche à faire. C'est que l'Église a abandonné l'amour qu'il avait au début. Et donc, il dit de se rappeler d'où ils sont tombés et qu'ils changent leur conduite, qu'ils reviennent à la conduite première, qui était l'amour. Sinon, la menace serait qu'ils déplaceraient le chandelier. Et déplacer ici le chandelier représente l'Église. Donc, c'est comme s'ils déplaçaient l'Église. Donc, imaginez. Une église qui a des difficultés et qu'elle soit obligée de changer de site, qu'elle soit obligée de repartir tout le temps à zéro. C'est-à-dire, c'est comme si, en fait, l'église, à cause des difficultés qu'elle traversait, elle va se vider. Et comme elle va se vider, elle va être obligée soit de changer de site, elle va être se vider aussi, et elle va être obligée de recommencer avec d'autres personnes, créer encore d'autres fidèles et compagnie. Donc, en fait, on voit qu'une des punitions que peut avoir une église lorsque elle ne manifeste pas la parole de Dieu, lorsque elle ne cherche pas la fidélité avec Dieu, une des punitions, s'il n'y a pas d'amour dans l'église, ce serait que Dieu permette que l'église se vide. Dieu permette que l'Église soit déplacée. Donc, on voit que à chaque fois qu'une église est déplacée ou bien qu'elle se vide, c'est qu'il y a une punition de la part de Dieu qui est en train d'être opérée. Et la punition, elle est conséquence, donc, au fait qu'il y ait un manque d'amour. Alléluia. Mais de quoi on parle ici quand on parle de manque d'amour? Le manque d'amour ici, ça m'a fait penser un peu à. On va revenir à la définition de l'amour dans 1 Corinthiens, verset 13. Qu'est-ce que c'est l'amour donc? Pour voir que l'amour est important, on peut avoir tout ce qui est un fonctionnement de l'Église qui est sur le papier avec un règlement intérieur, comme beaucoup d'Églises le font. Beaucoup d'Églises le font avec des règlements intérieurs. On a vraiment organisé l'Église pour qu'elle fonctionne de manière efficace. Mais la parole dit que tout ça, ce n'est pas important s'il n'y a pas d'amour. Dans 1 Corinthiens 13, qu'est-ce qui se passe? Au verset 1, la parole dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça veut dire que si on a les dons spirituels manifestés dans l'Église avec le parler en langue et qu'on n'a pas l'amour, c'est comme si en fait on faisait du vacarme, du bruit aux yeux de Dieu, aux oreilles de Dieu. Et au verset 2, il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de la connaissance, que j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça veut dire que on peut avoir toute la manifestation des dons spirituels, de la puissance avec l'onction, parce que l'onction est différente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne les dons spirituels, mais une fois qu'on manifeste l'onction, on peut manifester une onction alors que le Saint-Esprit n'est plus là. Parce que la parole de Dieu dit qu'il ne se répand pas de ses dons. Donc Dieu peut donner une onction à quelqu'un pour opérer dans le surnaturel, mais si la personne n'est plus agréable à Dieu, l'onction peut toujours continuer à marcher, mais le Saint-Esprit est parti. C'est ce qui fait que dans Matthieu 27, les gens vont aller dire au Seigneur Jésus, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai guéri les malades en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom, et Jésus va leur dire, je ne vous reconnais pas. C'est ça en fait, parce que ce n'est pas le fait de manifester l'onction qui veut dire qu'on est agréable et on est approuvé par Dieu. Parce qu'on peut avoir l'onction et effectuer le travail spirituel avec l'onction, mais le Saint-Esprit est parti. Donc ça veut dire qu'en ce moment-là, on le fait, c'est pour sa propre gloire qu'on le fait, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Donc ça, Dieu ne le reconnaîtra pas. Donc vous faites très attention. Très attention. Donc ça veut dire qu'on peut manifester, selon le 1 Corinthiens. Chapitre 13, verset 2, on peut manifester les dons de prophétie et toute la science et tous les mystères et ne pas avoir l'amour. Et c'est comme si on était en train de rien faire. Et le verset 3 dit, et quand je distribuerai tous mes biens et la nourriture aux pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Ça veut dire qu'on peut faire de l'aumône, on peut faire même des dons. On peut prendre de son argent pour donner, mais s'il n'y a pas l'amour qui est derrière, parce que si on le fait de manière en calculant, en se disant si je donne aux œuvres de Dieu sans amour, ça veut dire que vraiment on donne de manière mécanique pour pouvoir avoir quelque chose de la part de Dieu. Si ce n'est pas accompagné par l'amour, c'est comme si le don qu'on a fait n'a pas de sens. Donc c'est l'amour qui est le moteur. Alléluia. C'est pour ça que dans le texte de base qu'on avait dans Apocalypse 2, verset 3 à 5, quand la parole dit, allons, rappelle-toi, la parole dit, cependant j'ai un reproche à te faire, tu as abandonné l'amour que tu as fait au début. Donc c'est de ça qu'on parle ici. L'amour est le support de toutes les actions qu'on mène dans l'Église. S'il n'y a pas d'amour, c'est comme si on ne faisait rien. Alléluia. On se rappelle à l'époque de des apôtres, ce qui caractérisait l'Église. Parce que les gens étaient, c'était une révolution. Parce que des gens, quand l'apôtre Paul a fait dans Acte 2 la grande déclaration après avoir reçu le Saint-Esprit, on dit 3000 personnes se sont converties en ce jour-là. Et donc la communauté qu'ils avaient créée était une grande communauté qu'on reconnaissait comme étant de Christ parce qu'il y avait l'amour entre eux. C'est l'amour qui était le socle de cette communauté. C'est vrai qu'il y avait la connaissance, c'est vrai qu'il y avait, mais il y avait l'amour de Christ. Ils avaient l'amour de Christ, mais ils avaient aussi l'amour entre eux. Ce qui fait qu'ils pouvaient mettre tout leur bien ensemble et partager de telle sorte que chacun, même les plus démunis, ait quelque chose. C'est l'amour qui guidait cela. Et s'il n'y a pas d'amour, l'Église n'a pas de sens. S'il n'y a pas d'amour, l'Église est une organisation comme une entreprise. Ça veut dire qu'elle est efficace, elle est rude, elle atteint son objectif, mais ce n'est pas guidé par l'amour. Et tout ce qui n'est pas guidé par l'amour, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui a fait que toutes ces églises qui étaient des grandes églises en Asie que les apôtres avaient installées, toutes ces églises ont finalement dans le temps été fermées et remplacées par des mosquées. Parce que l'amour qui est le Saint-Esprit avait quitté les églises. Les églises étaient devenues des églises où on cherchait l'argent, où on cherchait la gloire, où on cherchait à être élevé, on cherchait la gloire de ce monde, être reconnu par les gens de ce monde, mais pas être reconnu par Dieu, où on ne travaillait plus l'amour, parce que on travaillait à des choses qui étaient personnelles, et donc du coup, ça a cassé ces églises se sont vidées, comme la parole a dit ici, il va déplacer le chandelier, et donc ces églises ont été vidées, et donc elles ont été fermées et remplacées par des mosquées. Alléluia, faisons très attention. C'est l'amour qui est la base de tout. Alléluia. Je vais prendre pour preuve, lorsqu'il y a le manque d'amour, à quoi ça conduit? Si on regarde dans le chapitre 1 Corinthiens 13, qui parle de l'amour, on parle le verset 4, on va dire, le verset 4 dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. Ça veut dire que le manque d'amour crée l'impatience et le manque d'amour crée le manque de bonté. Ça veut dire que ça crée la méchanceté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'en fout point d'orgueil. Ça veut dire que le manque d'amour crée des conditions où les gens deviennent envieux, deviennent jaloux les uns des autres. L'amour ne se vante point. Le manque d'amour veut dire que les gens deviennent orgueilleux, ils se vantent, ils sont vaniteux, ils ouvrent la bouche et ils se vantent. On voit les pasteurs qui sont en train de se vanter, moi j'ai ci, moi j'ai ça, les hommes de Dieu qui sont en train de se vanter, les serviteurs de Dieu qui sont en train de se vanter sur les choses qu'ils ont et au détriment du peuple. Donc on voit beaucoup de gens comme ça. Et c'est le manque d'amour qui fait ça, parce que quand tu as de l'amour, tu penses aux autres, tu penses à ne pas les choquer, tu penses à ne pas leur faire du mal, mais quand tu commences à te vanter, à te mettre en avant, ça veut dire que tu n'as plus d'amour, tu as de l'amour pour toi-même. Mais tu n'as plus d'amour pour le peuple. Alléluia. En tout cas, pour tes frères chrétiens avec qui tu es. Il dit, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Ça veut dire que le manque d'amour fait que tu deviens orgueilleux. Alléluia. Le verset 5 dit, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Ça veut dire que s'il y a un manque d'amour, les gens deviennent malhonnêtes. Et ils cherchent leur propre intérêt. Ils deviennent égoïstes. Ça veut dire qu'ils ne sont plus touchés par les situations des autres, ils n'ont plus la compassion des âmes pour aller sauver les autres, mais ils cherchent à se faire plaisir d'abord eux. Ça, c'est le manque d'amour qui peut provoquer ça. La parole dit aussi, ils ne s'irritent point, ils ne soupçonnent point de mal. Ça veut dire que le manque d'amour provoque des situations où les gens s'irritent, ça veut dire qu'ils s'énervent, ils deviennent colériques. Ils commencent à mal parler aux gens, ils commencent à insulter les gens, à mal parler, à les dénigrer en public. Et a fait en sorte que les gens même soient rabaissés, ils soient honnis en public. Ça, c'est le manque d'amour qui fait ça. Ils ne soupçonnent pas le mal. Ça veut dire que le manque d'amour fait qu'on soupçonne le mal. Ça veut dire qu'on commence à accuser les autres. On commence à accuser les autres, à ne plus faire confiance. Et en ce moment, ça gâche les relations. Alléluia. Le verset 6 dit, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Ça veut dire que le manque d'amour fait qu'on se réjouit de l'injustice. Et on ne se réjouit plus de la vérité, mais on se réjouit du mensonge. Ça veut dire que le manque d'amour renverse toutes les choses dans la vie d'une église. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus, enfin, c'est pour ça que l'apôtre Jean ici appelait donc les gens de l'église d'Éphèse, a dit, le message était, revenez à la base, c'est-à-dire l'amour. Parce que on vient de voir ensemble, selon 1 Corinthiens 13, tout ce que l'amour pouvait apporter, mais tout ce qui est en contraire de ce que l'amour apporte, on voit que ce sont des conditions pour complètement détruire une assemblée, pour détruire l'Église. Alléluia. C'est pour ça que il faut que dans tout ce que nous fassions, dans toute organisation qu'on dit être pour la gloire de Dieu, il faudrait que ce soit l'amour qui soit à la base de toutes choses. Si l'amour est à la base de tout ce qu'on fait, on aura les dons spirituels donnés par le Saint-Esprit qui va demeurer en nous, mais qui seront des dons spirituels faits pour aider les autres. Donc, dans le sens de l'amour, on aura aussi une organisation où les gens seront respectés, où on ne va pas tenir compte des individualités, mais on va tenir compte du bien collectif. Ça veut dire qu'on va travailler dans l'amour. Et c'est dans l'amour que le Saint-Esprit se manifeste. C'est dans l'amour que l'œuvre de Dieu est faite et elle est reconnue par Dieu lui-même. Sans amour, on ne peut rien faire. Alors, si on ne veut pas que les églises ferment, si on ne veut pas que les églises soient vidées, mettons de l'amour. Ainsi, le chandelier ne sera pas déplacé, comme dit la parole. Alléluia. Donc vraiment, je veux exhorter tout le monde, que ce soit pour l'amour de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit pour l'amour entre les frères, la communion fraternelle, que ce soit l'amour dans l'œuvre, c'est-à-dire que dans tout ce qu'on va poser comme action, dans le cadre de faire ministère, dans le cadre de faire des dons, dans le cadre d'aider la veuve et l'orphelin, dans le cadre de tout ce qu'on va faire, il faudrait que ce soit porté par l'amour. Alléluia. Si ce n'est point porté par l'amour, ça n'a point de valeur aux yeux de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le Seigneur bénisse sa parole. Je prie pour que tous ceux qui vont écouter ce message soient remplis d'amour pour les frères et les sœurs, l'amour fraternel. Que tous ceux qui écoutent ce message soient remplis d'amour pour Christ et pour son œuvre. Et que tout ce qui guide toutes nos actions, je prie que tout ce qui guide nos actions soit guidé, soit parle, soit l'amour. C'est l'amour pour les uns, pour les autres, qui doit guider nos actions. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, si on doit retenir un commandement parmi les 10 commandements, si on doit retenir, à part celui de dire qu'on doit aimer notre Dieu plus que toute autre chose, mais aimez-vous les uns les autres, comme Christ vous a aimé. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que Dieu bénisse sa parole, qu'elle s'installe dans le cœur de chacun, afin que les yeux s'ouvrent, que les voiles tombent, que tout le monde se rende compte que c'est l'amour qui est le moteur et que l'amour soit le principal moteur de toutes nos pensées, de toutes nos actions et de tous nos ministères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta parole. Amen.